13. Voici Luc Lavoie.
Luc, je ne sais pas si tu vas avoir le temps de nous écouter après-midi, là, vers midi 10, mais Jonathan Bernard va venir nous parler d'un rapport d'inspection d'un pont.
Le pont de Québec?
Le pont Pierre-Laporte, qui serait en très mauvais état également.
Ah oui?
Ouais. Ça fait que Jonathan va nous parler de ça tantôt. Fait que, tu sais, le troisième lien, il risque d'être le premier.
j'attendais, ça s'en vient. On sent que ça s'en vient. C'est là, c'est juste au bout du doigt. Hey, voilà, elle va le dire.
Ça faisait une semaine que je t'en avais pas parlé.
Donc, on tient nos anciennes résolutions.
Luc, hier, on a regardé Pierre Fitzgibbon répondre aux questions des journalistes sur le fait qu'il a vendu des actions d'une compagnie dans laquelle il était en association avec le gars qui l'a embauché pour diriger Investissement Québec. Il aurait donné l'ordre de vendre ses actions alors qu'en théorie, il y avait quelqu'un qui gérait tout ça était en fiducie, puis quelqu'un devait le gérer, donc normalement, il n'aurait pas dû s'en mêler, etc. Puis cet homme-là semblait atteint, excédé, puis il a eu le réflexe de dire, ben, si vous n'êtes pas content, m'en aller.
Ouais.
Comment tu vois ça, toi?
Ben, j'ai deux opinions à ce sujet-là. Premièrement, si tu veux avoir un homme d'affaires de renom au sein de ton conseil des ministres, c'est vrai que le Québec, là, c'est pas les États-Unis. Il n'y a pas 30 villes avec leur propre écosystème et tout ça. Ici, il y a le Québec, puis le monde des affaires, c'est petit. Si tu vas chercher un gars comme Pierre Fitzgibbon, puis que tu lui demandes de travailler à des projets de relance d'économie, mais si tu peux être sûr que tout au long de son parcours, il va avoir des amis. Deuxièmement, il l'a admis.
Ouais.
Il l'a dit dès le départ, la semaine passée, oui, c'est mon chum, mais je pense que c'est le meilleur. Puis en plus, la présidente du conseil, Mme Leroux, que je connais bien, a confirmé que c'était aussi la recommandation.
Ils ont eu candidatures qu'ils ont reçues en entrevue, etc. Là.
Alors si on est pour traiter nos politiciens de talent, parce qu'il semble avoir du talent, Fitzgibbon, je le connais peu, mais il s'exprime bien, il a de l'air à connaître ses dossiers, il a de l'air à être en contrôle. On n'aura plus de candidature de ce type-là. Tu sais, ces gars-là, il est toujours bien pas pour s'excuser d'avoir été en affaires. Et quant à la compagnie qu'il aurait vendue parce qu'il était en partenariat avec le fils de l'autre, c'est une compagnie qui fait 2 000 $ de revenus par mois.
Ah oui, c'est...
Tu sais, je veux dire, c'est comme à 10 minutes, là, on n'est pas ici en train de parler du grand patronage avec du graissage de pattes.
Non, alors, on n'est pas non plus dans le dossier de quelqu'un qui fait de la dissimulation, là. Ils ont augmenté de 50% le salaire du PDG d'Investissement Québec. Ils l'ont pas vraiment caché. Je peux pas le dire.
Non, ils n'ont pas caché du tout, parce qu'ils veulent changer la mission.
Mais il y a quand même un certain inconfort à voir. C'est un chum du ministre, puis qu'en plus, on augmente son salaire d'un coup. Ça...
Ben oui, mais moi j'en ai pas...
C'est à eux autres de prouver que c'était le bon choix.
Oui, voilà. Puis, je veux dire, on peut pas trop parler de patronage parce que la CAQ, on dira ce qu'on voudra, il n'y a pas de base militante, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de membership. C'est pas comme ça que ce parti-là s'est construit. Alors, c'est certainement pas parce que Guy Leblanc était un grand militant de la CAQ, c'est parce que Guy Leblanc était le chum de l'autre. Mais ça, c'est ma première opinion. La deuxième est un peu à contrario. Monsieur Fitzgibbon, là, c'est un autre homme d'affaires qu'on voit, puis il y a des femmes d'affaires aussi qui rentrent en politique, convaincu qu'eux autres, ils vont savoir te faire marcher ça, cette patente-là.
Ouais.
Puis qu'ils se pètent la gueule à chaque fois. Pourquoi? Parce que les hommes d'affaires, les femmes d'affaires qui arrivent en politique, pensent que tu donnes un ordre, puis c'est exécuté. La politique, c'est un métier complexe où les zones d'intervention et d'intervenants sont multiples. Je veux dire, c'est les membres du parti, mais c'est aussi la fonction publique, mais c'est aussi le caucus, puis c'est aussi le conseil des ministres. Puis c'est naviguer dans ça, c'est un art.
Et tu peux pas donner des ordres directs, tu dois convaincre la machine. Et souvent, tu es imputable de décisions que tu n'as pas prises toi-même.
Voilà, puis tu t'es tenu à la solidarité ministérielle, c'est l'essence de notre système. Maintenant... Et c'est là que j'en viens au côté un peu plus négatif à l'égard de M. Fitzgibbon, sans trop l'attaquer, parce que je le respecte, cet homme-là. Il va falloir qu'il apprenne à prendre la chaleur aussi. En politique, là, l'opposition est là pour te faire trébucher. Les médias sont là, c'est facile de blâmer les médias. Les médias, tel reportage, telle affaire...
J'ai trouvé ça malhabile, parce que tu te mets pas à dos, Québécois, quand tu veux être ministre longtemps.
Disons que c'est un point de vue valable. Mais non seulement ça. Je veux dire, écoute, t'es en politique, tu t'exposes, c'est ça. C'est ce qui vient avec. Puis tu vis avec. Puis tu te fais une carapace. Puis tu te dis, ben c'est ça la game. OK? Puis hein, des fois t'en gagnes, des fois t'en gagnes pas. Puis Bill Morneau, le ministre fédéral des Finances, il y a à peine un an, était embourbé dans quelque chose de plus complexe que ça encore. Parce que ça concernait la vente d'actions en bourse. Ce qui n'est pas le cas ici de M. Fitzgibbon. Il a finalement été blanchi par le commissaire à, l'équivalent du commissaire à l'éthique à Ottawa. Mais il y a goûté. Il y a goûté pas à peu près. Puis je me souviens de l'avoir vu prendre les nerfs puis tout ça. Maintenant, vogue la galère, tout va bien. Alors, M. Fitzgibbon, je suis de son bord. Je trouve que ça n'a pas de bon sens de se faire soupçonner de 56 affaires, alors que, comme il l'a dit lui-même, il n'a pas besoin de cette job-là dans la vie pour vivre. Là. Il fait ça parce qu'il pense qu'il peut aider. Mais il va falloir, M. Fitzgibbon, qu'il apprenne que la game politique, c'est un sport extrême.
Mais Luc, tu sais que les apparences sont hyper importantes en politique. La CAQ est rentrée en disant, nous, les nominations partisanes, c'est terminé, on va plus privilégier nos chums. Et là, on arrive avec une nomination comme celle-là. Ne serait-ce que pour les apparences, ça soulève certaines questions, non?
Mais il y a une différence, là, tu sais. Quand on... l'expression à la mode qui était rendue, qui me tapait sur les nerfs, d'ailleurs, tellement on l'entendait, c'était les tinamis. Mmh. On va aider les tinamis. Mais là, revenons à la base, là. Dans le cas, tu dis, du Parti libéral ou du Parti québécois, c'était des partis avec des racines puis des fortes bases militantes. Puis là, tu pouvais aller chercher l'affiliation politique, tout ça. Je mettrais ma main au feu que Fitzgibbon devait être un libéral la dernière fois qu'il a voté ou l'avant-dernière fois. Mm-hmm. Je veux dire, la CAQ, c'est forcément des gens qui viennent de d'autres partis parce que c'était à peine s'il existait il y a encore pas longtemps. Alors... Et t'arrives également, Jean-François, ou Jeff, je sais plus, là. Je vais t'appeler Jean-François, tiens, comme tu vas entendre ta mère, là. Écoute, il y a aussi en politique le fait que, écoute, si tu disqualifies le monde, tu sais, imaginons, là, tu sais, on va faire ça par l'absurde. Je suis François Legault. Si je m'envoie serrer à la main, puis il y a du monde qui me voit, je viens de me disqualifier de n'importe quel poste gouvernemental, ouais. Parce que là, il y a une photo qui va exister, puis ça va être un tinami. J'embarque pas là-dedans. Je suis très critique de Legault sur plein d'affaires, mais pas là-dessus. Puis Fitzgibbon, il a raison. Veux-tu des gens de qualité qui soient là? En d'autres mots, on arrive à la situation tellement absurde qui est la suivante. L'exercice démocratique par excellence, c'est-à-dire participer à la construction d'un parti, à l'élaboration de son programme, tout ça, ça te disqualifie de participer à la chose publique. Ben voyons donc!
Mais dans ce cas-ci, on n'est pas allé chercher un ami du secondaire de M. Fitzgibbon. Il était actionnaire de la même compagnie. Là. C'est quand même proche comme lien.
Ben, il était actionnaire d'une compagnie qui appartenait au fils de Leblanc.
Ils essaient tous les deux d'aider le jeune entrepreneur qui était le fils
de Leblanc. Ben oui. Puis il l'a dit très ouvertement. S'il avait essayé de le cacher... On parlerait d'autres choses, mais il ne cache pas pantoute. C'est lui qui l'a dit hier. Écoute, une compagnie qui fait 2 000 $ de revenus par mois. D'après moi, c'est 24 000 par année. Ça m'a dit rien à faire. Si tu te graisses la patte avec des affaires comme ça, c'est parce que t'es cheap en sacrement. Je veux dire, il y a quand même des limites, là, tu sais. À un moment donné, il faut arrêter de varger sur les politiciens. Moi, mon impression de Fitzgibbon, je l'ai rencontré une fois ou deux, je l'ai entendu dans plusieurs entrevues, tout ça, c'est que c'est un gars très valable. C'est un gars très, très bon. Et c'est un gars qui peut aider beaucoup au développement du Québec. Et des gars comme ça, il n'y en a pas partout. Puis quand t'en as un, va pas le scraper. On n'a pas besoin d'avoir juste des politiciens professionnels qui font de la politique depuis 25 ans. De temps en temps, ça prend quelqu'un qui arrive du monde réel.
Oui, mais il faut qu'il se rende compte dans quel monde il s'en va aussi.
Ah, ça, c'est l'autre aspect de ma critique.
Le revers de la médaille.
Écoute, ben, apprends, M. Fitzgibbon, vous allez de votre côté devoir apprendre à prendre la chaleur. Parce que c'est ça, la politique. Puis qu'ils se sont tous fait chauffer les fesses pas mal, une fois ou l'autre, dans leur vie.
Puis si c'est un bon politicien, il va rajouter une bûche dans le foyer de temps en temps.
Exactement. Exactement.
Parle-moi donc de Joe Biden. Est-ce que c'est le sauveur qu'attendent les démocrates? Moi, j'ai des doutes avec tout ce que je vois sur Twitter, sur lui. Là.
Non.
Il circule des montages photos où on le voit dans différentes cérémonies en train de flatter les cheveux des petites filles, etc. Tu te dis, vont-tu prendre ça, sérieux?
Écoute, il y a 76 ans, Joe Biden, j'ai eu l'honneur, le privilège et le bonheur de le rencontrer une fois en compagnie de M. Mulroney quand on avait été aux funérailles de Ronald Reagan, où M. Mulroney prenait la parole puis je l'avais accompagné pour lui donner un coup de main là-dedans. Puis la veille des funérailles ou l'avant-veille, je sais plus, on était à Washington, puis il y avait eu un grand cocktail offert au Congrès par les deux leaders, le démocrate puis le sénatorial. Joe Biden était là, on avait été dans son bureau. Écoute, c'est un gars charmant, ça n'a pas de bon sens. Les gens là, de Shannon, là, puis de Sainte-Catherine, là, puis de la région de Portneuf, où sont nos Irlandais, là, ils vont savoir de quoi je parle. Un charme irlandais absolument irrésistible, un sens de l'humour, une très grande élégance et un gars extrêmement chaleureux. Maintenant...
Tactile.
Je me souviens... Hein?
Chaleureux tactile. Et tactile.
Un peu taponneux, mais je pense pas que ça va aller bien loin. Ça. Okay. Écoute, quand t'as un président en avant de toi qui se attrapait par la chatte, là, je vais te dire une affaire, on n'est pas mal loin de ça. C'est pas ça le problème de Biden. C'est que Biden, c'est... tu sais, connais-tu la légende de la roche de Blarney?
Non.
Bon, ça contribue à définir les Irlandais, OK? Il y a un château, là, puis il y a un village qui s'appelle Blarney en Irlande, puis il y a un château, puis il y a une pierre qui est là. Puis c'est supposé, je pourrais t'en parler plus longuement, là, mais c'est supposé que quand tu vas donner un coup de langue sur la pierre, puis c'est très difficile, il faut que tu te couches sur le dos avec la tête par en arrière, là, c'est supposé que tu deviens soudainement éloquent. De là, l'expression de dire ce gars-là, c'est du Blarney all the way. Blarney, ça, c'est le côté irlandais où ils en mettent toujours un petit peu plus que nécessaire, où il y a toujours une petite swing dans l'affaire. Puis j'avais demandé à M. Mulroney, il n'y a pas bien ben plus irlandais que Brian Mulroney, qui d'ailleurs, sa mère et son père sont originaires de Sainte-Catherine. J'avais dit, c'est Joe Biden. Qu'est-ce qu'ils en pensaient, vous, parce qu'il le connaissait? Ah, il dit, c'est un bon gars, tout ça, bon, hein? Mais j'ai dit, en gros, là, ben, il dit, tu sais, la roche de Blarney, il y en a qui l'ont liché trop souvent. Je pense que c'est son cas. OK? Alors, Joe Biden, c'est un gaffeur. C'est un énorme gaffeur. Il s'est présenté pour l'investiture démocrate en 88, puis il s'est fait pincer à avoir copié, plagié mot à mot un discours de Neil Kinnock, qui était le chef du Parti travailliste en Angleterre, sans évidemment attribuer la moindre paternité de la citation en question. Gaffe par-dessus gaffe, en 2008, quand il était le co-listier de Barack Obama, à un moment donné comme ça, il a raconté, « Vous allez voir, aussitôt qu'Obama va être élu, là, il y a un de nos ennemis, la Russie ou un autre, qui va faire un coup pour tester, voir s'il y a une colonne vertébrale solide pour faire face à la menace. » Ça a fait dérailler la campagne d'Obama pendant quasiment 3 semaines de temps. Qu'est-ce qui t'a pris, Joe? Et non seulement ça, je sais pas si tu te souviens, quand Obama avait prêté serment, il y avait eu une faute de la part du juge en chef de la Cour suprême. Tu sais, c'est le juge puis l'autre répète, c'est le juge qui a fait une erreur. Et Obama a comme voulu le corriger, puis là, il y a eu comme une sorte de vide juridique. On dit, est-ce que oui ou non, la sermentation, qui est fondamentale dans le système américain, est valable. Fait qu'ils n'ont pas pris de chance, ils l'ont refaite à la Maison-Blanche. Et quand ils l'ont refaite à la Maison-Blanche, le juge en chef, John Roberts, s'est présenté. T'avais Obama, puis t'avais Joe Biden. Alors, au moment où Roberts s'avançait, Joe a commencé à vouloir faire des jokes à la Blarney Joe. Là, et je me souviens très bien d'Obama qui avait fait signe, Joe...
On recommence pas une troisième fois parce que ça fait le clown.
Non. Alors, c'est un politicien, il est en politique depuis 45 ans. 45 ans, là. C'est comme quand tu parles des politiciens professionnels que les Américains ont rejetés en élisant Trump. Il est le portrait tout craché de ça. Charmant, bon orateur, qui a déjà dit que quand il va se retrouver avec Trump comme adversaire, il allait l'amener en arrière du gymnase pour y sacrer une volée. Ce à quoi Trump a répondu, n'importe quand, tu peux venir quand tu voudras. De toute façon, t'as pas un quotient intellectuel bien élevé.
Ça va vieillard donner... dans la boîte, ça nous donnerait pas un très bon temps.
Un concours de wet t-shirt entre les deux vieillards.
Mais donc, c'est pas la panacée, mais c'est ce qu'ils ont de mieux pour l'instant.
Ben, il est en tête d'un sondage, mais c'est attribuable essentiellement à sa notoriété. Et il n'est pas en tête par 25 points. Je parle des sondages, pas pour la présidence, mais pour l'investiture démocrate. Il est devant Bernie Sanders. Il est à 29, puis Sanders est à 23. Alors, tu sais, il n'est pas comme en train de surfer sur une vague. Et compte sur Joe. Je dirais que d'ici 3 semaines, 1 mois, il va te péter une gaffe. Il n'est pas capable de s'empêcher. La Blarney, il l'a liché trop fort.
Puis il va faire de l'autodestruction.
Claire. clair, clair, clair. Puis il n'est pas bien fort, honnêtement.
Merci beaucoup, Luc.
Bye. Salut.
Il est midi 3 minutes.
On revient.